BFM Business, Intégral Placement, le face-à-face.
Voilà le face-à-face à 11h08. Juste le temps de vous rappeler que le CAC 40, pour l'instant, progresse de 0,76% à 5120 points pour l'indice parisien. Ils sont là, comme tous les lundis, pour le duel. D'un côté, Marc Riez. Marc, bonjour.
Bonjour, Guillaume.
Bienvenue, directeur général de Vega Investments. Et puis, de l'autre côté, c'est Olivier Delamarche qui est avec nous. Olivier, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, associé gérant de Platinum Gestion. On a donc un marché qui se reprend un petit peu après un coup de mou vendredi dernier, Olivier, une baisse d'un 1,5%. Est-ce que pour vous, c'est une respiration? Est-ce que c'est un changement de ton? Est-ce que vous avez l'impression que la Grèce, superbement ignorée par les marchés depuis des mois, va enfin s'inviter dans le débat finalement?
Elle se réinvite, elle l'a jamais quitté, simplement les gérants l'avaient oublié. Vous savez, un gérant, ça a une mémoire de poisson rouge, ça fait le tour de son local, il a oublié. Et puis là, tout d'un coup, il s'est aperçu que le silence était plutôt assourdissant, donc il s'est réveillé, il s'est aperçu qu'il y avait deux positions qui étaient la position des Européens d'un côté et puis la position de la Grèce de l'autre, qui étaient totalement irréconciliables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va essayer dans les jours et dans les semaines qui viennent, sur des opérations très court terme et sur des opérations qui sont des opérations de petite taille, de rouler les positions pour continuer à faire semblant de discuter. Mais vous avez des échéances qui vont arriver dès le mois de juin, qui sont des échéances là pour le coup importantes avec des gros montants. Et là, on voit très bien qu'il y a d'une part quelque chose de quasi religieux, dogmatique du côté de Juncker et sa bande, et puis de l'autre côté un gouvernement grec qui a fait un certain nombre de promesses politiques et qui aujourd'hui ne peut pas aller contre ça et qui en plus est dans une position qui est plutôt une position qui est bonne, mise à part une petite chose qui est la fuite des capitaux,
oui,
et qui elle s'accélère février, ça a été épouvantable, c'était 7% et demi du PIB, probablement mars aussi, j'ai pas vu le chiffre, mais ça doit être du même ordre. Et donc là vous avez sinon une Grèce qui est en tout petit excédent primaire,
mais c'est vite avalé par les remboursements.
Qui a une... mais s'ils font défaut, ils font défaut. Oui, oui. C'est nous qui sommes mal, c'est pas eux. Donc ça, il faut bien le comprendre. Donc visiblement, on est sur des positions qui, je vous dis, sont irréconciliables. Donc on sait qu'à terme, vous aurez très probablement quand même la Grèce qui va sortir de l'euro. Alors certains vont vous dire, même pas mal. Moi, je dis, je veux voir. Le même pas mal.
C'est un discours effectivement qui commence à s'installer du côté des marchés. Marc Riez, l'idée que même pas mal. Enfin voilà, si la Grèce sort, même Wolfgang Schäuble qui le dit aujourd'hui. Alors on pense ce qu'on veut.
À quel moment
ça devient un véritable sujet d'inquiétude
sur ce point-là, sur le point de la sortie de la Grèce de la zone euro? Je partage l'opinion d'Olivier. Je pense que ce serait une très mauvaise chose, à la fois pour les Grecs, parce que ils vont se retrouver quand même dans une situation un peu difficile, et puis pour la zone euro, pour l'Europe au sens large. Je pense que c'est un très mauvais message à envoyer au reste du monde. On voit bien que depuis quelques mois, on avait commencé à redevenir, pour les investisseurs anglo-saxons, une zone d'investissement attractive. Ça se voit dans les flux d'achat d'actions européennes par les investisseurs américains. Et donc, ce serait très mauvais pour moi de laisser la Grèce sortir de la zone euro, d'autant que, comme je l'ai souvent dit ici, et c'est là que nos avis divergent avec Olivier, c'est que le problème grec est un petit problème à l'échelle de la zone euro. On parle toujours d'à peu près 200 milliards d'euros. En s'y mettant à nous tous Européens, c'est quand même pas grand-chose à régler. Donc, pour moi, ce qui se passe entre le gouvernement grec et les négociateurs européens, ça relève beaucoup plus de la gesticulation aujourd'hui que de la vraie dispute.
Concrètement,
de toute façon, tout le monde a conscience que la Grèce ne remboursera pas.
Oui, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe en juin alors?
Je pense que comme depuis le début de cette crise, on va prendre encore des demi-mesures à nouveau en juin. C'est-à-dire que l'Europe...
Donc ce sont les Européens qui craquent, c'est ça, vous dites, une fois de plus.
Alors, je pense que là, ils haussent le ton.
Oui.
Et on le voit bien du côté des dirigeants allemands. Pour essayer d'obtenir quand même un minimum d'efforts du gouvernement grec. C'est vrai que il faut voir que la population grecque a quand même fait d'énormes sacrifices hein, dans les années passées. On voit bien que ça suffit pas de toute façon à rembourser un stock de dettes absolument gigantesque. Donc ils peuvent obtenir peut-être encore quelques petites souffrances supplémentaires du peuple grec sur le droit du travail en Grèce,
oui,
sur les retraites en Grèce, qui sont les deux gros sujets de crispation. Mais de toute façon, voilà, le sujet, c'est que le pays est effectivement insolvable, qu'il faut que les Européens qui ont accepté la Grèce autour de leur table depuis qu'ils les ont fait rentrer dans l'euro, eh bien, assument les conséquences. Quand dans une famille, on a un membre qui va mal, qui est en difficulté, etc., eh bien, les autres doivent l'aider. C'est tout. Et puis, je vous dis...
Ça ressemble pas vraiment à une famille, tout ça, quand même. Hein.
Non, mais c'est là où ça va le devenir.
Ouais.
C'est que, en dépit des déclarations de M. Chablé, il sait très bien qu'une Grèce qui sortirait sur un défaut de la zone euro, ce serait très mauvais pour l'Europe. Et là, je partage totalement l'opinion d'Olivier là-dessus. Ce serait... c'est minimisé par certains commentateurs aujourd'hui, mais je pense que ce serait très mauvais et qu'il ne faut pas envisager cette solution-là. Il faut faire de la dette grecque un zéro coupon perpétuel porté par les États européens et par la BCE, et puis laisser ce problème pourrir.
Sûrement pas.
Olivier.
À force de jamais régler les problèmes, on les cumule. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est 260 milliards qu'on serait obligé d'effacer et on va tout faire pour que dans deux ans ça soit 360. C'est ça le but du jeu.
Ils sont perdus, Olivier.
D'accord. Oui, mais alors justement, arrêtons les dégâts, arrêtons les comptes. Ne continuons pas nous à nous endetter.
Ils sont en excédent primaire, donc.
Mais arrêtons avec ça.
Remboursement, les excédents primaires.
Ça ne sera jamais remboursé.
Non.
D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir un endettement qui va continuer à se...
Oui, mais vous ne pouvez pas le dire tout haut.
Mais si, on peut le dire tout haut. Regardez, je le fais.
Oui, mais
donc ça ne pose aucun problème à le faire. Simplement, il faut dire aux gens que si on avait fait sortir la Grèce il y a 5 ans,
oui,
ça nous coûtait 4 fois moins cher que si on les fait sortir dans 5 ans, parce que c'est comme ça que ça se finira, eh bien, ça nous coûtera 4 fois plus cher. Donc, arrêtons, je vous en prie, les dégâts, et faisons-le maintenant. C'est ridicule d'essayer de poursuivre dans cette voie qui est forcément mauvaise. Alors, je suis d'accord que ça va donner des idées à d'autres pays. Politiquement, c'est une catastrophe. Seulement, politiquement, c'est une catastrophe. Et qui en est la cause? Eh ben, ce sont ces espèces d'européistes quasi religieux, je vous dis, qui depuis le début ne veulent pas affronter les problèmes, ne veulent pas voir les problèmes, et continuent à essayer de gagner du temps, parce que forcément, ça leur conserve leur salaire et ça leur conserve leur poste.
Le sujet, Marc, c'est effectivement le message que ça envoie et puis ce qui se passe dans le reste de l'Europe, parce qu'il y a un effet boule de neige.
Le sujet, quand Olivier dit si on l'avait fait il y a 4 ans, ça aurait coûté moins cher. Bien sûr que non, Olivier. On aurait fait.
Mais bien sûr que si, enfin.
On aurait laissé il y a 4 ans la Grèce sortir de la zone euro. On avait un risque énorme d'entraîner des défauts souverains au Portugal, en Irlande,
et là,
peut-être en Espagne.
Et là, qu'est-ce qui a changé?
Beaucoup de choses ont changé.
Ah bon? Quoi? On a plus de dettes.
Attends, Olivier, voilà.
Tous ces pays-là sont plus
endettés. Attendez,
Olivier,
laissez Marc répondre.
Aujourd'hui, tu as une BCE qui imprime 60 milliards d'euros par mois de billets. Ça aide énormément.
Pas de billets, de confettis d'ailleurs.
Si tu as regardé
la dernière intervention de Mario Draghi, tu as vu l'avenir de l'euro.
En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que les 4 années qu'on vient de gagner sur la solution de la dette grecque, elles ont été extrêmement profitables pour l'Europe dans son ensemble. C'est-à-dire que une sortie à l'époque aurait été cataclysmique en termes d'effet domino, et on voit bien qu'aujourd'hui cet effet domino,
c'est facile à dire.
On se souvient quand même de ce qu'étaient les marchés financiers en 2010, de la nervosité qui était la leur, de la fragilité des banques à l'époque en Espagne, en Irlande, au Portugal, dans ces pays-là. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est une situation qui, grâce au fait d'avoir gagné du temps, hein, a permis...
Acheter du temps.
Voilà, acheter du temps, ça a permis déjà d'éviter cette explosion de la zone euro. Alors, acheter très cher, oui et non, parce que c'est au moins 4 ans qui ont permis à ces pays-là de commencer à se restructurer, à se reprendre, etc. Quand tu regardes l'Irlande aujourd'hui...
Ils vont beaucoup mieux. Le Portugal, ça va beaucoup mieux. Les Grecs, ça va beaucoup mieux. Je suis pas sûr qu'ils aient la même vision que toi.
Écoute, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que...
Allez, on va conclure sur la Grèce.
Ils repartent de l'avant, comme l'Espagne.
À l'Espagne, qui vient de publier un déficit commercial toujours plus fort.
Qui prévoit 2,5% cette année.
C'est amusant. Non. Pourquoi il rêve d'avoir 2,5% de croissance. C'est comme nous, on rêve d'avoir 2,5% de croissance. Mais les chiffres sont pas là. Voilà. C'est ça qui est amusant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne se base que sur des prévisions de gens qui n'ont jamais fait une prévision juste. C'est-à-dire le FMI, l'INSEE et le CNR.
Non, mais là, on te parle pas de prévision.
Jamais ils n'ont fait une prévision juste. Bon. Et là, aujourd'hui,
on ne parle pas de prévision.
La reprise est là.
La
reprise est dans les chiffres statistiques publiés par ces gens-là.
Prévision de croissance à 2,5%. Bon, on va en faire le dossier grec dont on aura certainement plus que l'occasion de reparler. Je voulais quand même avoir votre point de vue, c'était ma question d'origine, sur l'état des marchés à l'heure actuelle. Voilà, on est sur des plus hauts de 7 ans. On sent bien que la dynamique, bien que haussière, est de moins en moins dynamique précisément, Marc. Est-ce que vous avez l'impression que là on est mûr pour une petite correction pour
On a engagé là une petite correction sur les marchés européens la semaine dernière. Donc le DAX perd un peu plus de 5%.
C'est le DAX surtout qui arrive.
Voilà, c'est surtout le DAX. Ouais. Surtout le DAX. Mais bon, les marchés européens en général corrigent un peu. Alors, on était monté à 5260-70, on est revenu là tester les niveaux de 5100. Pour moi, il n'y a pas de catastrophe quand même. Je pense que si la correction devait s'approfondir un petit peu et qu'on revoit des niveaux comme 4950-5000, nous on serait ravis, ça nous permettrait de racheter à nouveau. Donc c'est quelque chose qu'on attend avec espoir.
Olivier de sourire pendant ce temps.
Oui. Olivier, lui, il voit à 3000. Donc,
sourire, bien sûr, parce que aujourd'hui, Marc Reyes n'a toujours pas compris qu'on était dans une bulle.
Donc, il s'est quand même pas beaucoup trompé pour l'instant non plus.
Économiquement,
pour l'instant.
Ça n'a jamais été pire que ça. Enfin, c'est épouvantable.
C'est épouvantable.
Donc, sur l'ensemble, sur la Chine, sur les États-Unis, sur l'Europe. Voilà. Donc aujourd'hui, on est toujours dans la même logique, c'est-à-dire chiffres mauvais d'un côté et puis poursuite de la hausse des indices. Vous avez ça en Chine, vous avez ça au Japon, vous avez ça aux États-Unis. On a des résultats qui sont mauvais, on a des chiffres macro qui sont mauvais, la production industrielle la semaine dernière aux États-Unis, la Chine, c'est épouvantable, ça s'effondre. Ça s'effondre vraiment.
Vous avez vu les mesures annoncées hier, le taux de réserve des
banques. Ce qui prouve que la Banque centrale de Chine, comme les autres d'ailleurs, a perdu totalement la main. C'est-à-dire un coup on les monte, un coup on les baisse les taux, un coup
elle a surtout beaucoup de marge de manœuvre.
On baisse les réserves obligatoires. Pourquoi? Parce qu'ils ont et ça depuis déjà un moment, ils ont les fesses entre deux chaises et que c'est une position qui est assez inconfortable.
Oui, mais ils ont encore des outils.
Ils ont les fesses entre deux chaises avec 4000 milliards de dollars de réserves de change quand même.
Ils ont une bulle de crédit d'un côté qui est gigantesque comme on en a jamais connu. D'accord. Et de l'autre côté, on a un ralentissement de croissance qui est extrêmement fort, extrêmement puissant. J'espère que vous ne croyez pas aux 7% de croissance qu'ils nous ont annoncé, qui est juste une plaisanterie. Donc, vous êtes très probablement maintenant plus qu'à 2 et encore. Et donc, vous avez une Chine qui est coincée entre un ralentissement de croissance assez fort qui demanderait à ce que on élargisse le crédit, qu'on baisse les taux, etc. Et puis de l'autre côté, une bulle du crédit absolument gigantesque qui demanderait qu'on freine le crédit. Donc aujourd'hui, la Banque de Chine ne sait pas où elle en est, ne sait pas comment faire pour se faire un espèce de soft landing et d'un côté et de l'autre côté que l'explosion d'une bulle de crédit qui arrivera à un moment ou à un autre ne fasse pas trop mal. Donc voilà, on est vraiment là, exactement comme dans tout ce qui s'est passé depuis un bon moment avec les banques centrales, on voit que les banques centrales, c'est une espèce de fuite en avant permanente avec des gens qui ne savent plus comment se tirer de là où ils sont mis.
Voilà.
Donc Japon, juste,
Marc, la Chine, ça vous inquiète?
Oui, juste un mot, c'est que, si vous voulez, il faut savoir qu'en Chine, en début d'année, la banque centrale chinoise imposait aux banques commerciales de détenir 20% de réserves obligataires placées. C'est-à-dire que 20% de l'ensemble des dépôts des déposants chinois, que ce soit des particuliers ou des entreprises, etc., devaient être gelés à la banque centrale chinoise. Pour faire un parallèle avec l'Europe, on est à 0,5 chez nous de réserve obligatoire. Donc, ils étaient 40 fois à notre niveau. Donc là, ils ont libéré, mi-février, 1,5%. Ils sont tombés à 19,5%. Oui. Et là, ce qui s'est passé hier dimanche,
ils
nous annoncent un point de moins. Ils tombent à 18,5% de taux de réserve obligatoire. Donc, sachant que d'un côté, ils ont ça, et d'un autre côté, ils ont à peu près 4000 milliards de dollars de réserve de change qui s'alimentent régulièrement tous les mois par d'importants excédents commerciaux. Je pense que quand Olivier dit ils sont le cul entre deux chaises,
c'est plus le cas.
J'adorerais être dans une situation aussi inconfortable que celle de la Banque centrale chinoise quand même.
C'est-à-dire ce qui prouve que t'as pas compris grand chose à l'économie.
Voilà. Je pense que c'est au moins la 15e fois que tu me dis ça depuis 3000.
Reste une minute. Allez, Olivier.
Tu m'as dit au moins 15 fois, j'avais rien compris. Donc, admettons que je continue de rien comprendre à avoir raison. Donc.
Et ça éclate quand, alors?
Si tu as raison quand?
Olivier.
Il y a quelques mois, tu nous expliquais que les 7% chinois n'étaient plus les 7% d'avant.
Voilà.
Parce qu'on était dans un momentum positif. Vous avez vu le momentum positif?
Le momentum positif, là, dernièrement. Il s'est produit au moment où je te l'ai dit. Et après, effectivement.
Là, on est en momentum positif sur la Chine.
À recalmer. Mais de toute façon.
C'est impressionnant.
Olivier. Allez, pas tous en même temps. Olivier, ça éclate quand?
On ne sait pas quand ça va éclater. Le problème, c'est aujourd'hui des Chinois, c'est qu'ils ont surinvesti massivement, mais surinvesti comme aucun pays ne l'a fait dans le monde. D'accord? Et qu'aujourd'hui, on a évidemment les conséquences de ça. C'est-à-dire une
baisse de
crédit épouvantable.
Oui.
Un ralentissement massif. On nous a expliqué que c'était pas grave parce que de toute façon le modèle de croissance chinois allait complètement évoluer, c'est-à-dire que on n'était plus vers l'extérieur, on était en consommation interne.
Oui.
Or on voit que c'est absolument faux, chiffre après chiffre, où on voit que la consommation interne est absolument en train de s'écrouler. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que
ça prendra des années.
Oui, mais le temps des marchés n'est pas le temps économique. Alors si vous me dites que la Chine sera la première du monde dans 15 ans, je vous dis oui, monsieur. Sauf que entre-temps, il sera passé certaines choses.
Voilà.
Et donc ça, pour l'instant, c'est ça qui nous occupe. Parce que moi, ce que va faire la Chine dans 15 ans, c'est très bien. Sauf que il va se passer un certain nombre de choses entre-temps.
Tout à fait.
Et entre-temps, c'est un des pires problèmes qu'il y a dans le monde aujourd'hui, c'est la Chine et le Japon. D'accord? Donc on est là en train de se faire un focus sur des alignements de planètes en Europe, alors que à côté de nous, le moteur chinois est en train d'exploser en vol, et le moteur japonais, s'il a été un super moteur dans les dernières années, terminé. Et ça, on a des chiffres qui nous le montrent jour après jour, et on a des marchés qui s'en fichent complètement, parce que on a des économistes qui sont en train de nous dire, mais rassurez-vous, si la Chine ralentit, elle va nous sortir un quantitative easing avec évidemment, la puissance chinoise. Alors, ça serait merveilleux. Mais on nagerait tous dans le bonheur.
Allez, Marc, je vous laisse le mot de la fin. Voilà. Parce qu'il faut qu'on...
Un quantitative easing de la banque chinoise. Quand tu pars déjà de 20% de taux de réserve obligatoire des banques, tu vois bien que chaque fois qu'ils libèrent 1%, au système bancaire, ça remet dans le circuit à peu près 200 milliards de dollars. Donc. Et ça s'appuie sur des réserves de change gigantesques. Donc, je suis d'accord avec toi pour dire, il y a un problème de bulle immobilière en Chine, il y a un problème de bulle du crédit en Chine, c'est vrai. Mais à côté de ça, tu as une puissance de stabilisation énorme de la Banque Centrale Chinoise.
Allez, c'est fini, messieurs, on aurait pu disserter pendant des heures sur nos préoccupations du moment, mais enfin, on se retrouvera bien sûr lundi prochain pour ce faire. Marc Ries, directeur général de Vega Investment, et puis Olivier Delamarche, associé gérant de Platinium Gestion. Merci, messieurs, à très vite sur